Bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Il est 2018. C'est Hélène Bédard qui vous parle et en studio, j'ai ma fidèle collaboratrice Francine Forget. Bon matin, madame.
Bonjour, Hélène. Le retour de l'été ce matin, alors on a le cœur en...
Oh, on a de la poésie en ondes, magnifique, en studio.
Poésie d'Orwell, comme on disait.
C'est peut-être la plus jolie. Et à la régie, Maurice. Maurice,
oui, bonjour.
Bon
ouais. Bonjour.
Toujours fidèle aussi et supporteur. Alors voilà, ce matin, nous allons donc vous aborder avec quelques sujets. Voici en substance ceux de Francine.
Est-ce que vous savez que notre corps, c'est une machine à courir? Je vais aborder ça. A-t-on vraiment marché sur la Lune?
Oh ben
une
là.
Autre question.
Oh ben là.
Et une opinion de Boucardio en ce lendemain de débat, qui ne porte pas sur le débat, mais qui a un lien avec le débat.
Tiens donc, toujours, oui. Toujours aussi d'appoint, toujours aussi d'à-propos, ce Boucard. Merci beaucoup, Francine. De mon côté, moi, je vais vous entretenir de... Eh bien, je vais commencer avec un très, très beau texte, c'est « Les yeux de l'âme ». Ensuite, je vais vous jaser des grands-parents, l'âge de nos pieds et l'âge de notre cœur, ainsi que l'âge de nos yeux. Je vous en reparle tout à l'heure. À tout de suite. Oui, nous revoilà en studio. Alors voilà, je vais tout de suite laisser la parole à ma collègue Francine Forget.
Merci Hélène. Alors, comme je le disais, le corps, une machine conçue pour la course, c'est un article que je vais vous lire en deux volets qui est paru dans Québec Science septembre 2018. Des adaptations physiologiques apparues il y a plus de 2 millions d'années démontrent que l'humain a évolué pour courir. Aujourd'hui, les coureurs d'endurance misent sur ces capacités pour repousser leurs limites. C'est Guillaume Roy qui signe ce texte. Franchir 125 km dans les montagnes de Charlevoix est un bon défi pour une randonnée d'une semaine. Mais aux yeux de certains athlètes d'endurance, le parcours se boucle en moins d'une journée. Ce type de course extrême a le vent en poupe. Rien qu'au Québec, on retrouve désormais 4 courses en sentier de plus de 100 km. Alors qu'il n'y en avait aucune il y a tout juste 5 ans. En Amérique du Nord, le nombre d'ultramarathons, des courses de plus de 42,2 km, a bondi de 183 à 1473 entre 2000 et 2016, selon le site spécialisé ultrarunning.com. Les ultra-coureurs prolifèrent au même rythme. Uniquement en 2017, ils sont plus de 79 000 à avoir complété des courses extrêmes, dont 12 059 ont couvert un parcours de 160 km, ce qui équivaut à presque 4 marathons, faut le savoir. Note-t-on sur le site de référence realendurance.com. Une distance qui donne le tournis, mais qui ne suffit pas pour certains. Pendant le Tour des Géants, une course disputée en Italie, les athlètes parcourent 335 km et la succession d'ascensions équivaut à un dénivelé, je m'excuse, positif de 24 000 mètres, soit environ 3 fois l'Everest. Pour le commun des mortels, courir l'équivalent de plusieurs marathons quotidiennement en montagne pendant des jours peut paraître surhumain. Avec l'entraînement, certaines personnes peuvent supporter l'inconfort très longtemps, car la fatigue touche moins les muscles que le système nerveux pendant une course d'endurance, dit Guillaume Miette, qui est physiologiste de l'exercice. L'humain serait-il fait pour la course? C'est ce que pense le paléo-anthropologue, oh là là, Daniel Lieberman, qui étudie le fonctionnement de l'organisme et la façon dont il a évolué depuis plusieurs millions d'années. Les coureurs d'ultramarathon ne sont pas surhumains. Ils ne font que repousser les limites de la course d'endurance, soutient-il. Selon lui, les premiers représentants du genre Homo ont acquis cette résistance incroyable et les propriétés biomécaniques qui la sous-tendent il y a plus de 2 millions d'années. Lorsque les premiers primates sont devenus bipèdes, il y a de cela 4,4 millions d'années, ils sont devenus lents et vulnérables, note celui qui dirige le département de biologie humaine évolutive à l'Université Harvard. Mais l'évolution a rabattu les cartes en sélectionnant les individus les mieux adaptés à l'activité de la chasse et de la cueillette. Parmi les traits sélectionnés, outre la coopération et de plus gros cerveaux, il y a la course. C'est d'ailleurs une des clés pour comprendre l'évolution de la structure du corps humain, car on retrouve plusieurs caractéristiques qui ne servent qu'à cette activité, assure Daniel Lieberman. Alors après, dans le deuxième volet de cet article de Québec Science, je vous parlerai du processus qui nous a amené à être de si grands coureurs.
À suivre, Madame Forget.
À suivre, n'est-ce pas?
Nous revoilà en studio. Alors, merci Francine encore une fois pour ton excellent article. Moi, j'ai eu ce texte sous les yeux et j'aimerais vous en faire part. C'est recueilli sur Internet sur un site qui s'appelle Beau Texte, fort simplement. Malheureusement, il est anonyme, mais je veux vous le lire. Et je ne peux résister au plaisir de vous le faire partager. Deux hommes, tous les deux gravement malades, occupaient la même chambre d'hôpital. L'un d'eux devait s'asseoir dans son lit pendant une heure chaque après-midi afin de mieux respirer. Son lit était à côté de la seule fenêtre de la chambre. L'autre homme devait passer ses journées couché sur le dos. Les deux compagnons d'infortune se parlaient pendant des heures. Ils parlaient de repos, de famille, décrivaient leur maison, travail, participation à différentes activités, les endroits qu'ils avaient été en vacances. Et chaque après-midi, quand l'homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s'asseoir, il passait le temps à décrire à son compagnon de chambre tout ce qu'il voyait dehors. L'homme dans l'autre lit commença à vivre pour ces périodes d'une heure où son monde s'était élargi et était égayé par toutes les activités et les couleurs du monde extérieur décrites par son compagnon d'infortune. Il décrivait ici un parc avec un beau lac, des canards, des cygnes jouaient dans l'eau, tandis que les enfants faisaient voguer leur bateau en modèle réduit. Les amoureux qui marchaient bras-dessus, les fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, de grands arbres décoraient le paysage et on pouvait apercevoir au loin la ville se dessiner. Pendant que l'homme près de la fenêtre décrivait tous ces détails, l'homme de l'autre côté de la chambre fermait les yeux et imaginait la scène pittoresque. Lors d'un bel après-midi, l'homme près de la fenêtre décrivit une parade qui passait par là. Bien que l'homme ne pouvait entendre l'orchestre, il pouvait le voir dans les yeux de son imagination, tellement son compagnon le dépeignait de façon vivante. Les jours et le temps passèrent ainsi. Un matin, à l'heure du bain, l'infirmière retrouva, sans vie, le corps de l'homme près de la fenêtre. Il était mort paisiblement dans son sommeil. Attristé, l'autre homme demanda s'il pouvait être déplacé à côté de la fenêtre. L'infirmière, heureuse de lui accorder cette petite faveur, s'assura de son confort, le laissa seul. Lentement, péniblement, le malade se souleva un peu en s'appuyant sur son coude pour jeter un premier coup d'œil dehors. Enfin, il aurait la joie de voir par lui-même ce que son ami lui avait décrit. Il s'étira pour se tourner lentement vers la fenêtre près du lit. Or, tout ce qu'il vit fut un mur. L'homme demanda à l'infirmière pourquoi son compagnon de chambre décédé lui avait dépeint une toute autre réalité. L'infirmière lui répondit que l'homme était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur. Peut-être a-t-il simplement voulu vous rendre heureux. Il y a donc un bonheur extraordinaire à rendre d'autres heureux en dépit de nos propres épreuves. Si vous voulez vous sentir riche, vous n'avez qu'à compter parmi toutes les choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut acheter. Voilà, c'était un très beau texte qui vient de Beau Texte, un site sur Internet.
Le dos en marmelade et les reins en compote, les vertèbres en salade, j'ai sonné à la porte de la femme géante qui sait manipuler les bras articulés et les chaises pliantes. Dans la salle d'attente, y'avait d'autres tordus qu'avait planté la tente, alors j'ai attendu, craignant, je le confesse, d'avoir les os brisés de mon. ses énormes fesses. Et puis ce fume entoure, ça aura le permis que ça tombe le jour où j'avais mis un caleçon fantaisie que l'on m'avait offert pour mon anniversaire. Le sort avait choisi de jolis cocotiers plantés sur une plage sous un ciel incendié, vierge de nuages. Et la femme géante m'a serré dans ses bras et nous avons dansé la bachata et crac, le merengue et crac, la pachanga et crac, la guacha et crac. Pour les yeux que ce tableau charmant, nous étions tous les deux comme la Vierge et l'enfant, et nous avons dansé. Je me suis laissé faire, et un pas de côté, et un pas en arrière. Il n'y avait plus qu'à tout jeter dans le seau. Après la pachanga, j'avais le dos en vrac. Il n'y avait plus qu'à tout mettre dans un sac. Après la pachanga, j'ai remis mon pantalon. Soit il était plus court, soit j'étais plus long. La bachata est craque.
Pachanga par Thomas Fersen.
Merci beaucoup, Maurice. Nous sommes de retour après cette charmante mélodie. Francine va poursuivre en courant.
Oui, en courant. L'article sur le corps, une machine conçue pour la course. C'est pour échapper aux prédateurs, mais surtout pour nourrir leur clan, que les hominidés du genre Homo sont peu à peu devenus de vraies machines de course. Tous les carnivores doivent courir pour attraper leur proie, poursuit Daniel Lieberman. Je vois pas pourquoi les humains feraient exception. Pas facile toutefois de rattraper une gazelle, un cerf ou un zèbre lors d'un sprint. Sans armes, les premières lances n'étant apparues qu'il y a 400 000 ans, nos ancêtres ont donc misé sur une redoutable tactique, la chasse à l'épuisement. Le plan consistait à courir longtemps après un animal pour le faire surchauffer jusqu'à ce qu'il s'écroule. En pourchassant l'animal à l'heure la plus chaude de la journée, ce dernier est rapidement incommodé et cherche à s'arrêter dès que possible pour abaisser sa température corporelle en haletant. En suivant les traces laissées par la bête, le chasseur peut toutefois traquer sa proie pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle ait trop chaud pour continuer. Et c'est justement parce que l'humain, lui, a une capacité unique lui permettant d'éviter la surchauffe qu'il est gagnant à ce jeu-là. Nous souons plus par unité de surface que n'importe quelle autre espèce, grâce à des glandes sudoripares qui n'ont pas d'équivalent dans le monde animal, soutient David Carrier. Et contrairement à la plupart des animaux, nous n'avons presque pas de poils. De plus, alors que les quadrupèdes doivent respirer une fois par enjambée, car leurs poumons sont comprimés pendant la course, l'humain bipède peut respirer plus librement lorsqu'il court, favorisant l'apport d'oxygène dans le corps, ajoute le biologiste. Toutes ces adaptations ont permis à l'homme de pratiquer la chasse à l'épuisement pendant des millénaires jusqu'à la fin du 20e siècle. Aujourd'hui, la pratique est de plus en plus rare, car l'utilisation de fusils a changé la donne, mais cette extraordinaire endurance n'a pas disparu pour autant. Mieux, on en repousse sans cesse les limites. Dans le quartier Queens, par exemple, à New York, des coureurs complètent une course de 4989 km en 52 jours. Ouf. Quelle distance quotidienne le corps humain peut-il ainsi tolérer? Difficile à dire, répond le physiologiste Guillaume Millet, car notre cerveau nous protège contre nos propres excès et chaque personne réagit différemment à la fatigue. Les deux seules limites réelles sont le manque de sommeil et la chaleur, ajoute M. Millet, car ils peuvent causer des hallucinations, un manque de jugement et, ultimement, la mort. Quoi qu'il en soit, nous aurions probablement tous intérêt à renouer avec le coureur qui sommeille sous les couches de civilisation moderne en chacun de nous. Et nul besoin de franchir des distances inimaginables pour bénéficier des effets de la course, car en plus d'améliorer le système musculo-squelettique, l'activité physique agit comme un antidépresseur, réduit le stress et facilite le sommeil. Guillaume Roy conclut son article « Le corps, une machine conçue pour la course » dans Québec Science de septembre 2018 par une question que je vous pose, chère Hélène et cher Maurice. Êtes-vous prêt à chausser vos espadrilles?
Effectivement, l'endurance et la performance, je croyais qu'on pouvait l'obtenir autrement qu'en courant, mais là... Oh, intéressant. Vous, je sais que vous pouvez les chausser demain matin, vos espadrilles, puis courir.
Oui, mais pas faire 150 km. Ah, oh. Non. Pas tout de suite, en tout cas. Non,
je sais pas, Maurice, mais... Maurice, c'est au vélo.
Oui, je serais prêt. Non, je suis un peu en vélo, mais à vélo. Mais oui, je pourrais être prêt éventuellement. Bon. Je voudrais que j'ai un coach. Je voudrais que j'ai quelqu'un qui m'entraîne, qui me dise faire les échauffements avant, les étirements pour se réchauffer, pour pas se briser. Et voilà.
Je pense que Mme Forget pourrait être votre coach.
On a toutes sortes de prétextes pour ne pas se dire totalement prêt.
Ouais, ça, c'est bon.
Mais merci. En tout cas, c'est, ça travaille dans le cerveau.
Merci.
When, petite sœur, we'll just have to remember. I'll be down no more, the old dancing music sound. All day long in my gown, when I will be down. Quand je serai KO, descendu des plateaux de fourneaux. Poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace, de chewing-gum. Plus belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Je serai pomme dans les souvenirs, les albums. Est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? When, petite sœur, we just have to remember. I'll be down. No more the old dancing music sound. All day long in my gown, when I will be down. Plus d'atoll pour une déprime qu'à du bol. Plus les folles griffonnant, je t'aime sur des gristoles. Quand je serai rien, chanteur de salle de bain, sans clap, clap, sans guitare, sans les batteries qui tapent. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Quand je serai KO, descendu des plateaux de phonon, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort?
Très belle reprise de Alain Souchon, Quand je serai KO, chantée par Mathieu Bogartz.
Merci beaucoup, Maurice. Très, très belle mélodie. Très légère. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, nous sommes de retour en studio. Francine Froget, Hélène Bédard. Moi, je vais vous décrire le portrait d'une femme qui. Elle court peut-être pas des espadrilles, mais elle court. Je vais vous faire un portrait de Jocelyne Lajeunesse. La région de, on peut dire d'elle qu'elle a la région de l'Outaouais brodée sur le cœur. C'est un texte de Sophie Gagnon, prise dans ma revue Chouchou, Le Virage. Elle porte très bien son nom, la dame, Madame Lajeunesse, car son emploi à la FADOC la garde jeune, si bien qu'elle ne fait pas du tout ses 70 ans. Cette dame joviale et énergique à la FADOC région Outaouais, au sens propre comme au sens figuré, elle a le cœur brodé. Elle a la région Outaouais brodée sur le cœur, pardon. En effet, elle porte fièrement le chemisier officiel de ce regroupement régional, en plus d'avoir un sentiment d'appartenance très développé envers l'organisation, qui a donné un deuxième élan à son parcours sur le marché du travail. Je travaillais dans des boutiques de vêtements pour dames depuis 1982, lorsque j'ai eu l'occasion de remplacer ma sœur Madeleine, qui quittait son emploi à la FADOC. Je remercie la direction d'alors de m'avoir fait confiance malgré mes 66 ans et mon inexpérience en informatique, note-t-elle. Madame Lajeunesse, qui a eu 5 enfants, 6 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, si elle ne connaissait rien aux ordinateurs, elle savait qu'elle apprenait vite. En moins de temps qu'il n'en faut pour appuyer sur « Envoyer », elle maîtrisait sa tâche de responsable des cartes. Aujourd'hui, elle co-anime même des ateliers FADOC consacrés aux tablettes iPad. Attention! Pour Mme Lajeunesse, c'est tout un accomplissement de s'être familiarisée avec l'informatique, elle qui en rêvait. Jamais elle n'aurait pensé servir un jour de modèle à certains novices aux tempes grises dans leur apprentissage aux nouvelles technologies. Mme Lajeunesse s'occupe aussi de l'organisation des loisirs signés FADOC. C'est ainsi que la veille de notre rencontre a eu lieu son tournoi de golf, le sien, dans le cadre des Jeux régionaux. S'il représente une charge de travail appréciable, Jocelyne aime ses défis, surtout lorsqu'il s'agit de golf, son sport de prédilection. Elle se plaît tant à la FADOC qu'en 4 ans, elle n'a jamais manqué un seul quart de travail. Et elle n'écoule pas non plus toutes ses vacances annuelles, et surtout pas 2 semaines d'affilée. C'est bien trop long, dit-elle. Richard Bisson, qui est le directeur général du regroupement régional de la FADOC, se compte chanceux d'avoir une employée si fiable, si ponctuelle, si polyvalente et si flexible au niveau de ses horaires. Il apprécie autant son sourire perpétuel et la qualité de son accueil. C'est un plus qu'elle ait un âge similaire à celui des membres, puisqu'ils se sentent à l'aise de lui poser toutes les questions qui les chicotent, fait-il remarquer. Retraite connaît pas. On le devine, la retraite n'est pas encore dans les cartons pour cette dame au maquillage, à la coiffure et aux ongles impeccables. Toujours par coquetterie et par crainte d'éventuelles remarques d'agistes, elle souhaitait d'abord qu'on taise son statut de septuagénaire, mais elle a vite balayé ses considérations du revers de la main. Après tout, l'âge n'est qu'un chiffre, dit-on. C'était un texte, une bouffée d'air frais de Sophie Gagnon dans la revue Virage, le portrait de Jocelyne Lajeunesse qui est paru très récemment en septembre 2018. C'est beau. Alors voilà, nous sommes de retour. Francine Forget va poursuivre.
Oui, pour clore totalement l'article sur le corps, une machine conçue pour la course, un entrefilet qui accompagnait cet article de Québec Science. Des femmes bioniques? Les femmes sont moins fatiguées sur le plan musculaire après une course d'endurance, selon les données recueillies lors d'une étude réalisée après l'Ultra Trail du Mont Blanc, une course de 166 km dans les Alpes françaises. Les femmes sont soit plus résistantes à la fatigue, soit elles gèrent mieux leur niveau de fatigue que les hommes, commente le physiologiste de l'exercice Guillaume Millet, avant d'ajouter que davantage de recherches est nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes. Alors, peut-être que ça explique cet entrefilet, bien des choses dans notre vie quotidienne, n'est-ce pas?
Oh, okay,
alors
oui.
Voilà, je n'ai pas de parti pris, mais j'ai même une petite opinion comme ça en passant. Alors, ça clôt cet article, ce dossier sur la course, le corps, une machine conçue pour la course.
Pour la course, moi, je vois plutôt la course comme une performance quotidienne au travail. Mais enfin, il y a un autre genre de course.
C'est ça.
Merci beaucoup, Francine. Merci. Voilà. Alors, Francine veut nous surprendre de nouveau avec
oui, je passe à autre chose. Mais quoi que des vagues, ça donne l'impression parfois d'une course folle, surtout en temps de tempête. Dans Science et Vie, été 2018, on pose la question. Pourquoi les vagues se dirigent-elles vers le rivage? Parce qu'en approchant de la côte, la diminution de la profondeur de la mer les oriente parallèlement à la plage. Comme le souligne Richard Sharp, chercheur au laboratoire de physique des océans à Brest, à leur origine, les vagues vont dans tous les sens. Elles naissent au large, à l'occasion de fortes tempêtes, qui déforment les couches superficielles de l'eau. Les plus grandes peuvent présenter 200 mètres entre deux crêtes successives et parcourir plus de 4000 km avant de venir se briser sur les côtes. Alors, voilà, l'explication est simple. Lorsque la profondeur de la mer devient inférieure à la demi-longueur d'onde de la vague, cette dernière atteint le fond marin et ralentit sa course. Et elle se dirige vers le rivage.
Merci beaucoup, Francine. Restez avec nous. Nous poursuivons les voies de service immédiatement après cette pause.
Ouf!
Rebonjour, après cette courte pause, nous sommes toujours en studio, Hélène Bédard, Francine Forget et notre fidèle Maurice Bolduc. Alors voilà, moi je vais vous poursuivre la lecture d'un texte que j'ai retrouvé dans la presse, écrit par Jean-Christophe Laurence. Un métro parfumé pour guider les non-voyants. Tiens donc. Se diriger grâce aux odeurs, c'est ce que propose le métro de Rennes, avec une signalétique parfumée pour guider les non-voyants. L'expérience, lancée en avril dernier, se prolongera si les résultats sont convaincants. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir qu'on ne peut pas sentir. Partant de cette prémisse, le métro de Rennes, en France, a décidé d'expérimenter un système de signalétique olfactive pour guider les non-voyants. Depuis avril, un diffuseur de fragrance a été installé sur les quais de la station Sainte-Anne, située au centre de la petite ville bretonne. Pour chaque direction, une odeur spécifique. Parfum d'iode pour les passagers se dirigeant vers la station Poterie. Parfum de menthe poivrée pour ceux se rendant à la station Kennedy. Cette expérience inédite, lancée en avril par l'entreprise Keolis, a pour objectif d'aider les non-voyants à s'orienter plus facilement. Ce sont des odeurs de réassurance, pour être sûr d'aller dans la bonne direction, expliquait alors Armel Billard, porte-parole de Keolis au journal Ouest France. Ce système de nébulisation, aussi implanté dans les ascenseurs et les wagons, viendrait compléter la messagerie sonore déjà présente dans le réseau. Le choix d'installer ce système à Saint-Anne n'est pas l'effet du hasard. Le fait que la station soit vaste et profonde permettrait de mieux tester la bonne diffusion et la remontée des odeurs. Ce sera léger comme des petites bulles modifiant l'air ambiant, confie-t-elle. Tellement léger d'ailleurs qu'un non-voyant rencontré sur les lieux ne semblait pas du tout convaincu par cette expérience. Je ne trouve personnellement aucun intérêt au guidage par les odeurs dans la station, dit Jean-Marie Delerue. Les odeurs diffusées n'ont pas de lien significatif avec la direction indiquée, comme par exemple une odeur de pain indiquerait la proximité d'une boulangerie. Et puis, je ne sens pas grand-chose. Et vous, dit-il. Pour en avoir le nez net, la presse s'est rendue sur les quais concernés. Les odeurs nous semblaient en effet plus que ténues, voire difficilement saisissables. L'expérience du métro de Rennes devait durer 6 mois, se terminant à la fin du mois de septembre, après quoi Keolis fera le point. Il faut voir si ce dispositif est pertinent pour les aveugles et malvoyants, mais aussi vérifier que ces odeurs n'importunent pas les autres passagers, explique Mme Billard. Si cette expérience est bien reçue, l'entreprise déploierait le système dans toutes les autres stations, sinon, elle y mettra fin. Multinationale française, qui est cette compagnie, elle est aussi Keolis est aussi responsable du nouveau système de navette électrique autonome actuellement testé à Candiac, tout près de chez nous. Une expérience qui devrait durer, celle-là, 12 mois. Maintenant, l'avis d'experts face à cela. Alexandre Bellemare, membre du conseil d'administration de la Fondation des aveugles du Québec, dit que l'expérience n'est pas passée inaperçue au Québec, mais pour l'instant, l'heure est à la prudence. Peut-être que ce système peut aider une certaine clientèle, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de courants d'air dans les stations de métro de Montréal. Alors, j'ai comme l'impression que ça pourrait causer des mélanges d'odeurs et confondre plus qu'autre chose. En outre, quelle odeur prédomine s'il y a quelqu'un à côté de toi qui met du parfum ou qui dégage une odeur X? Ça peut devenir difficile de suivre ça dans une foule. Le métro de Montréal utilise actuellement un dispositif de messages vocaux destiné aux malvoyants, ainsi que des bandes de guidage pododactyles au sol comme avertissement sur le bord des quais. Avant d'installer un système de signalétique olfactive, voire tout nouveau système, M. Bellemare estime que la STM devrait plutôt mettre les moyens pour améliorer les dispositifs déjà en place. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres priorités. Les places réservées aux handicapés, par exemple, ne sont jamais placées au même endroit dans les métros Azur. Les messages vocaux ne sont diffusés qu'en français, alors que cette ville est bilingue. Enfin, le système vocal des bornes de rechange Opus ne fonctionne plus depuis que le fournisseur de machines à carte de crédit a changé. C'est d'autant plus embêtant que les changeurs aux tickets ne prennent pas les cartes de crédit. Alexandre Bellemare estime du reste qu'un GPS par Bluetooth serait plus efficace qu'un système d'odeur. On pourrait avoir beaucoup d'informations avec un système comme cela, ne serait-ce qu'une sortie qui est fermée. Dans la foulée, il reconnaît que le téléphone intelligent n'est pas nécessairement familier, évidemment, à tous les utilisateurs. À bout de compte, dit-il, le meilleur moyen demeure encore, demander à quelqu'un. Ça fait mal à personne. Alors voilà, c'était une petite nouvelle concernant ce qui se passe dans le métro de Rennes. C'était dans La Presse par Jean-Christophe Laurence. Voilà, alors nous poursuivons en studio avec Francine.
Oui, une opinion de Boucard Diouf. Boucard Diouf fait paraître régulièrement des opinions dans la presse plus. Je vous lis celle du 8 septembre 2018, « Le courage de déranger ». Cette semaine, c'est la rentrée scolaire en France, avec comme particularité majeure l'interdiction des téléphones portables et autres bébelles connectées dans les écoles pour les moins de 15 ans. Sauf pour les cas de nécessité absolue ou d'utilisation pédagogique, les élèves n'auront plus droit à ces distractions en classe, comme dans la cour d'école, dit la disposition législative votée par les députés de la majorité présidentielle et du centre. Voilà le genre d'action gouvernementale courageuse que je pense bien avant-gardiste, car on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour réaliser que les objets connectés sont devenus une distraction majeure dans nos écoles. Les enseignants et enseignantes ont des tonnes d'histoires à vous raconter sur le sujet. Mais est-ce qu'une telle loi peut passer au Québec ou au Canada? Je suis pas vraiment certain, car les droits individuels sont si sacrés ici que bien des décisions prises pour le bien collectif ne peuvent résister à leurs assauts. C'est ainsi, par exemple, que le cours d'éducation à la sexualité que la grande majorité réclame depuis si longtemps arrive enfin cet automne avec son nuage de contestations potentielles. Malgré la volonté du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, de fermer toute possibilité d'exemption pour des motifs religieux, les levées de boucliers s'organisent et l'exemple ontarien est bien vivant. En Ontario, à cause de contestations semblables, Doug Ford vient de jeter à la poubelle le nouveau programme d'éducation sexuelle mis en place par sa prédécesseure, Kathleen Wynne. Heureusement, la Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario a déposé cette semaine une injonction contre la décision du premier ministre Ford. Mais le plus surréaliste, c'est d'entendre le premier ministre Ford reprocher aux libéraux de ne pas avoir suffisamment consulté les parents en 2015 avant d'implanter le nouveau programme d'éducation sexuelle. Depuis quand les parents doivent décider des enseignements scientifiques que leurs enfants doivent ou ne doivent pas entendre à l'école? Imaginez une minute le fouillis dans lequel on se retrouverait si, dans un pays aussi diversifié que le Canada, on devait demander à toutes les sensibilités culturelles et religieuses leur avis avant d'élaborer un programme scolaire. Est-ce que c'est vraiment ça la mission de l'école? L'école doit être un lieu pour outiller les jeunes de lanternes qui leur permettront ultérieurement d'éclairer leur chemin par eux-mêmes. Elle doit être un milieu d'égalité des chances, d'avoir une éducation complète sans égard à la culture, la langue et les croyances. Si on s'était contenté dans le passé d'écouter les avis des lobbies religieux conservateurs pour élaborer les programmes scolaires scientifiques, on enseignerait encore aujourd'hui que la Terre est plate, qu'elle est vieille de quelques milliers d'années et qu'elle est au centre de l'univers. Avec l'affaire Harvey Weinstein et la campagne de dénonciation MeToo, moi aussi, avec les énormes problèmes rapportés régulièrement par les sexologues sur la sexualité débridée et préoccupante de certains jeunes qui s'auto-éduquent sur le net, les politiciens devraient prendre les grands moyens pour le retour dans nos écoles d'un cours décomplexé d'éducation sexuelle qui soit enseigné à tous. Sur un sujet aussi complexe et important, pourquoi l'école devrait-elle accepter d'éteindre sélectivement la lanterne de certains jeunes à cause de la seule sensibilité de leurs parents? Cela dit, je sais aussi que je prêche un peu dans le désert, car malgré la volonté du ministre Proulx, je soupçonne qu'il y aura des trous dans sa digue et le cours d'éthique et de culture religieuse se chargera certainement de rendre respectable et noble la décision de certains parents de sortir leur enfant du cours d'éducation à la sexualité. Alors, je vous ai résumé l'essentiel de l'opinion de Boukhar Diouf, Le courage de déranger dans la presse plus du 8 septembre 2018.
J'ai bien aimé. Un cours décomplexé. Hein,
oui, oui, dit. C'est ça. Voilà, décomplexé.
Mm-hmm. Tellement juste.
Oui.
C'est le sauvage du Nord, en tirant ses vaches, il y avait des bottes aux pieds qui faisaient la grimace. Tu m'as aimé, puis je t'ai aimé. À présent, tu me quittes. Tu m'aimes plus, puis moi non plus. Nous sommes quittes pour quittes. Tu n'aimes rien, mais y'a yo. Tu te rappelles-tu quand tu me promenais dans ton canot d'écorce? Dans ce temps-là, tu faisais ton frais, tu me jetais sur les roches. Tu n'aimes pas, ya yo. Dam tili dam tili dili dili dam. Au match gauche, nous, tu watch, na joué, ouch. Thank you.
watch not you out you come up get it get it knock and hold though le mouchoir tu m'avais donné tiens ma lit dans ta poche retire-toi de près de moi que le sorcier t'emporte tu n'aimes pas ya yo Watch not you out, come on, get it, catch that knock and hold on. Le casque de plume que je t'avais prêté, t'as besoin de me le remettre. Si tu veux pour que je te perce la tête avec une flèche, tu m'aimes, ben, ben, ya, yo. Dam, tilly, dam, tilly, dilly, dilly, dam. Pour moi, je nous chloue, tu watch not you out, come on, get it, catch that knock and hold on.
Chloé Sainte-Marie nous chantait Le Sauvage du Nord.
Quelle belle mélodie! Ça l'a éveillé beaucoup de souvenirs. Très... Merci beaucoup. Je ne la connaissais pas, vous me faites découvrir, Maurice. Voilà. Alors, moi, je vais poursuivre ma lecture avec un texte très récent paru dans le Journal de Montréal, un texte de Claude Villeneuve. Et ça s'intitule ainsi « Nos grands-parents ». La relation que nous avons avec nos grands-parents est paradoxale. Nous leur devons notre existence même, mais il est si facile de les oublier. Pour plusieurs, ils ont exigé de s'en tenir au rôle de celle ou de celui qui gâte, puis nous les laissons à leur ennui. Certes, les manières dont nous concevons individuellement notre rapport avec nos grands-parents sont aussi multiples que le nom que nous leur donnons. Il y a autant de mamies et de grands-pas que des façons de les avoir dans nos vies. Pour preuve, une discussion fascinante tenue à l'émission Médium Large sur la première chaîne entre quatre intervenants qui ont été élevés par leurs grands-parents. Certains doivent guider leur descendance qui négocie les turbulences d'un monde qui change trop vite. D'autres nous auront fait dîner chaque jour, trop pressés de sortir de table entre deux demi-journées d'école. Un peu tragiquement toutefois, la rencontre ne survient tout simplement jamais, l'un s'étant absenté trop tôt. Il y a des gens qui deviennent des grands-parents collectifs, et cette phrase est une citation de Mme Lise Payette. Des voix familières de notre société qui parlent résilience de leur présence dans notre monde politique, culturel et médiatique font figure de repère pour un peu tout le monde. Pourtant, il y a quelque chose que l'on oublie trop souvent lorsque disparaissent des personnes comme celle que je viens de citer, Mme Lise Payette, M. Gilles Pelletier, M. Jacques Parizeau, il y a un peu plus longtemps. Chaque fois qu'un quelqu'un part, a perdu son grand-père chéri ou sa grand-mère adorée, notre deuil collectif ne peut alors faire autrement que de peser sur la peine très privée, intime et surtout plus légitime de celle ou de celui qui dit adieu à un proche. Laisser partir ses grands-parents n'est facile pour personne, car si vieillir est la grâce de ceux qui ne sont pas tombés trop tôt, on n'accepte pas davantage de les voir connaître toutes les petites défaites qui rapprochent de la fin. Plusieurs vivent leur vieillesse comme un naufrage. Celui qui en est témoin et qui prend soin ne s'habitue jamais vraiment à cette inversion des rôles. Bref, de nombreux petits deuils qui précèdent le plus grand d'entre eux. Il ne faut pas s'étonner que la question des conditions de vie des personnes aînées prenne toujours autant de place dans cette campagne électorale, dont on disait pourtant qu'elle serait celle de la génération X. Les sondages démontrent que si l'on demande aux électeurs quelle est leur priorité, ils seront très nombreux à répondre « la santé ou l'économie ». Et si on leur propose plutôt d'en nommer 3 ou 5, une écrasante majorité de gens penseront à la manière dont leurs parents vieillissants, leurs grands-parents ou eux-mêmes sont soignés. Nos grands-parents, qu'on pense ou non à eux, sont toujours dans nos têtes, donc. À travers ce qu'ils ont transmis à nos parents ou qu'ils nous ont directement appris, à travers le rôle qu'ils ont joué dans la collectivité où nous évoluons, à travers l'inquiétude sourde que nous ressentons aujourd'hui pour eux comme ils l'ont déjà fait pour nous. Il y a toutefois une manière de faire durer la contribution de nos grands-parents qui peut continuer tant qu'ils sont encore avec nous. C'est en multipliant les moments partagés avec eux pour les faire jaser, les faire se raconter. C'est l'héritage le plus précieux qu'on puisse leur réclamer. C'était un texte de Claude Villeneuve, paru le 1er septembre dernier dans le Journal de Montréal. Alors, nous revoilà. Toujours la même équipe en studio. Alors, Francine Franget, continue.
Alors, une autre opinion. Cette fois, c'est Normand Baillargeon qui s'exprime dans Québec Science, septembre 2018, sur les adeptes des théories du complot, qui sèment le doute. A-t-on marché sur la Lune? Juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulent le sol lunaire, tandis que 600 millions de téléspectateurs observent leur exploit. La scène historique émeut toute la planète. Toutes, à l'exception de quelques esprits critiques et mieux informés, qui ont remarqué des détails troublants. Pour eux, c'est clair, la mission Apollo 11 n'est qu'une vaste supercherie. La NASA, engagée depuis 1961 par le président Kennedy dans une course contre l'URSS pour aller sur la Lune avant la fin des années 1960, a dû se résigner à admettre que la tâche était impossible. En 1969, on a donc décidé, pour ne perdre ni la face ni la course, de filmer en studio le supposé alunisage. La preuve, il y en a plusieurs. Le drapeau des États-Unis que les astronautes ont prétendument fixé sur le sol lunaire. Il est plissé, froissé, exactement comme un drapeau qui flotte dans le vent. Sur la Lune, il n'y a pas d'air. Quant au module d'exploration lunaire, il n'a formé aucun cratère en se posant. Normal, puisqu'il a été déposé délicatement dans un studio de cinéma. Et ce n'est pas tout. Sur la Lune, il n'y a qu'une seule source de lumière, le Soleil. Les ombres devraient donc toutes être parallèles, ce qui n'est pas le cas. En cause, les multiples projecteurs du studio. Mais voici ce qui va achever de convaincre les sceptiques s'il en reste. Notre bonne vieille Terre, que les astronautes n'ont jamais quittée, est entourée de ceintures de radiation infranchissables appelées ceintures de Van Allen. S'ils étaient passés au travers, les astronautes n'auraient pu y survivre. Voilà l'argumentaire en apparence bien ficelé des gens qui pensent qu'Apollo 11 est un coup monté. Cette théorie de la conspiration est loin d'être la seule à circuler. On en trouve à propos de l'assassinat de John F. Kennedy, de l'existence des Illuminati, de la mort de la princesse Diana, de l'attentat terroriste du 11 septembre 2001 et sur bien d'autres sujets encore. Sachant qu'il existe de vrais complots, des terroristes ont réellement conspiré pour planifier et exécuter l'attaque du 11 septembre, sachant aussi qu'il est parfois sain de remettre en question ce qui est tenu pour vrai, comment s'y retrouver et rester critique sans être happé par une sorte de trappe conceptuelle dont on ne sort pas? Voilà quelques éléments de réponse. Une théorie de la conspiration commence souvent, comme je l'ai fait ici, en donnant des raisons plausibles de refuser l'histoire officielle. Elle propose ensuite une narration alternative, puis cherche des anomalies dans la version officielle, lesquelles sont données comme preuve que cette dernière est fausse. Or, c'est là un raisonnement qui n'est pas concluant. Il se peut, par exemple, que l'anomalie alléguée n'en soit pas une. C'est ainsi que la NASA connaissait très bien les ceintures de Van Allen. Elle en a tenu compte pour réduire au minimum l'exposition des astronautes aux radiations. Quant au sol lunaire, recouvert d'une fine couche de poussière, il est très dur, ce qui explique que le module d'exploration lunaire ne l'a pas altéré, d'autant qu'il s'y est posé en douceur. Bref, devant une théorie de la conspiration, il est sage de se demander si l'anomalie en est bien une, ce n'est pas nécessairement le cas, et de rechercher une explication différente de celle qu'on nous donne. Je vous invite à en chercher pour les autres anomalies que j'ai énumérées. Alors, c'était Normand Baillargeon, « Je doute, donc je suis », sa chronique mensuelle dans Québec Science, septembre 2018.
C'est très troublant, hein, ce que vous venez de lire.
Oui.
Parce que moi, j'ai accroché aux éléments perçus.
Oui, les Van Allen, là, qu'on doit... Oui, c'est ça.
Oui, mais le drapeau, effectivement, comment qu'il fait?
Oui.
Pour fixer dans les arbres, c'est vrai, ça fait penser à un petit drapeau qu'on met sur une maquette.
Hein. Oui, c'est ça. Oh là exactement, là. Exactement.
On risque de basculer là, dans cette séduction.
Oui. Quand on se met sur ce chemin-là... effectivement, bon, effectivement.
Ben, merci Francine d'avoir éveillé ce doute.
Réveillé. Alors c'est, on le doit à Normand Baillargeon.
Merci.
Oui,
merci.
Notre philosophe.
Oui. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see
skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
What a Wonderful World par Louis Armstrong.
Ah ben là, Maurice, vous m'avez bercé là, avec cette délicieuse mélodie. Ça m'a réconcilié avec les complots. Merci beaucoup. Voilà, Hélène Bédard au micro. Alors, je vais poursuivre avec une courte lecture que j'ai trouvée dans la revue Virage, toujours ma revue chouchou. On a l'âge de son cœur et de ses pieds. La santé des pieds est tout aussi importante que la santé dentaire ou oculaire. Nous connaissons tous quelqu'un qui a dû diminuer ses activités à cause de douleurs ou d'inconfort aux pieds. Toutefois, nous pouvons prévenir beaucoup de complications en prenant en main la santé de nos pieds. C'est un texte écrit par Nicole Laroche, infirmière. Pardon, il s'est paru très, très récemment, au début septembre. Il est essentiel d'hydrater la peau tous les jours avec une crème conçue spécifiquement pour les soins des pieds. Dr. Andréanne Baudouin, de l'Ordre des Podiatres du Québec, explique que chez les personnes de 50 ans et plus, la peau est plus sèche, on appelle ça xérose, et que souvent des callosités ou des fissures se développent. On commence aussi à voir les conséquences du pas répété de nos très jolis souliers mal adaptés à la morphologie de nos pieds, et ce qui donne oignon, orteil et marteau, chevauchement d'orteil, etc. Les ongles peuvent être plus épais, plus difficiles à couper. Et malheureusement aussi, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance veineuse ou artérielle sont des facteurs importants de risque pour la santé de nos pieds. Viviane Leblanc, qui est présidente des podologues affiliés du Québec, nous rappelle les gestes d'hygiène, à poser soi-même pour avoir des pieds en santé. D'emblée, si l'on a des problèmes d'équilibre ou qu'il est difficile de rejoindre ses pieds, on peut penser à installer un bain adapté pour la baignoire. Il faut aussi bien assécher les pieds, surtout entre les orteils. On coupe les ongles en ligne droite, on évite de couper trop court pour éviter de favoriser le développement de ce qu'on appelle les ongles incarnés. On utilise une lime à ongles plutôt qu'un coupe-ongles pour ne pas se blesser. On ponce les zones rugueuses de la peau avec une lime à pied, doucement dans le même sens. Il n'est donc pas recommandé d'utiliser de lame ou de râpe en métal. Aussi, pour combattre la xérose, qui est la peau sèche, bien hydrater la peau à tous les jours avec une crème conçue spécifiquement pour les soins de pieds. Pour sa part, Dr. Andréanne Baudouin suggère de faire un auto-examen de ses pieds régulièrement. On surveille la présence de blessures, de rougeurs, enflures ou de douleurs, et l'on consulte évidemment en cas de problème. Et n'oubliez pas, il y a des spécialistes à votre service. Parfois, il est difficile de prendre soin de ses pieds parce que la vue baisse et que les douleurs articulaires limitent les mouvements ou que les ongles sont trop épaissis. À ce moment, on confie les soins de ses pieds à un spécialiste sur une base régulière. Chouchoutez donc vos pieds, ils le méritent bien. Et n'oubliez pas que la prévention est la meilleure façon de garder vos pieds en santé et de marcher encore très longtemps.
On dit ici un tout petit conseil pratique. Utilisez un séchoir à cheveux à basse température pour assécher toutes les zones des pieds qui ont tendance à rester humides. Alors voilà, c'était un court texte sur le soin des pieds paru dans le journal Virage. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre écoute. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Francine.
Mais ça me fait toujours plaisir, Hélène. Vous le savez bien, vous le savez bien.
Merci. Et merci, Maurice, de nous avoir supportés. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Portez-vous bien.